Je me souviens quand nous travaillions au ministère. J'étais au deuxième étage et toi au septième. Un jour, Alfredo Corrado et Jean Grémion sont venus dans mon bureau, accompagnés de l'inspecteur pédagogique M. Bouillon. Il me les présenta suite à leur difficulté à trouver des personnes sourdes, malgré leur visite au sein de diverses associations de sourds. N'essuyant que des refus, ils ne savaient plus vers qui se tourner pour réaliser leur rêve de création d'IVT. L'inspecteur les avait alors guidés jusqu'à mon bureau. Il me relaya leurs demandes comme maigre réponse à mes nombreuses réclamations, liées à mes besoins dans la poursuite d'études post-bac et les limites qui nous étaient imposées puisque nous étions alors encore considérés incapables. À ce moment-là, ils m'expliquèrent leur projet culturel, mais je ne comprenais pas réellement leurs demandes. Alors, je les ai accompagnés vers la cantine, où une vingtaine de sourds se retrouvaient, autour d'une grande table. Finalement, ils étaient déjà tous à la cafétéria, alors ils se demandèrent ce qu'il se passait, mais en les retrouvant, je les présentais aux personnes sourdes afin d'échanger longuement autour du café. Le sujet abordé était la culture dont le signe alors utilisé en ASL était différent en LSF. Ce concept restait ambigu et sans représentation réelle. Pourtant, ils insistaient en ASL sur l'importance de ce projet. Attisés par la curiosité, ils souhaitaient poursuivre ces échanges. Alors pendant la fin de semaine, nous avons fait appel à tous nos réseaux respectifs. Les relais d'information de l'époque étaient si puissants grâce aux mains à yeux, si bien que nous nous sommes retrouvés une cinquantaine, voire même une centaine, dont des oralistes. Nous étions très nombreux à représenter notre diversité. Au fil des échanges, une vingtaine d'entre nous est restée mobilisée plus régulièrement. Un des souvenirs forts de cette expérience pour moi était de voir à quel point Alfredo était fasciné par notre langue des signes française tant imagée. Il révélait toutes ces images dont nous étions inconscients, c'était tout à fait naturel pour nous. Nous ne réalisions pas réellement pourquoi, quand nous signions, il nous demandait de garder ces signes imagés. Il nous montrait l'esthétisme de notre langue, et il fallait le démontrer, l'importance d'en préserver sa beauté. Il insistait sur notre devoir de démontrer cette puissance visuelle. En effet, la langue des signes était encore interdite depuis tant d'années que nous n'avions pas suffisamment de recul sur notre propre expression. Nous étions même gênés à l'idée de montrer notre langue des signes. Nous progressions vers des créations artistiques, dont la tienne sur l'eau. Tu exprimais en beauté le ruissellement, le bouillonnement, ou le crépitement de l'eau. Avant ces créations, nous avions travaillé la musicalité, sans son, l'écriture d'une musique sur un rouleau de papier que nous étirions face à nous, au sol. L'un debout signait un passage quelconque sur la pluie, par exemple, en y apportant un rythme plus ou moins rapide, et l'autre, assis en face, inscrivait ses perceptions plus ou moins intenses. On tirait le rouleau au fur et à mesure de nos écritures, nous relisions ensuite nos productions et tentions de reproduire le rythme en langue des signes. Cela correspondait tout à fait, cela démontrait notre musique intérieure, une musicalité issue de notre perception visuelle et non sonore. C'est marrant de voir à quel point nous sommes opposés toutes les deux. Moi, très à l'aise pour m'exprimer en langue des signes, du fait d'avoir suivi ma scolarité en internat à l'institution d'Asnières. L'effectif de 400 élèves sourds réunis en son sein nous offrait la possibilité d'avoir de riches échanges. En langue des signes, nous jouions souvent à créer des poèmes, sans même savoir qu'on pouvait les nommer ainsi. Moi, je m'amusais à mettre du rythme, des pauses entre chaque signe. Regarde, dis, pleure. Oui, je me souviens de ton style, foulard, au vent. Ce travail sur le rythme était splendide. Et tu y mettais tellement d'images. Tout à fait. Et j'ajoutais sur ce rythme ma voix, en suivant différentes intonations. On venait alors toucher ma gorge. Bill Moody adorait cela, pour y sentir les vibrations. Il se laissait porter par ton rythme. Je me sentais libre de m'exprimer. C'est à l'IVT, en créant de la poésie et d'autres formes artistiques, que j'ai commencé à comprendre que la langue des signes était bien une vraie langue. Cela signifiait donc que notre langue pouvait tout exprimer. Aussi bien l'humour que l'expression artistique telle que la poésie. Et même la musique, le rythme. Oui, exprimer la musique, le rythme, c'est vrai. C'est réellement ce qui m'a permis de comprendre, en y associant le regard valorisant d'Alfredo, la beauté visuelle de notre langue. Il nous conseillait de garder cette forme d'expression, ce qui impliquait de la conscientiser pour la retrouver en nous. À travers ces recherches, l'oppression vécue rejoignait le récit visuel de mes histoires personnelles. Pendant cette période, nous nous étions retrouvés nombreux lors d'un méchoui festif chez Alain Lugine. J'avais amené mon appareil photo, en quête d'inspiration poétique. Avant de me lancer dans cette recherche, je suis bien sûr allée à la rencontre des invités jusqu'à ce que j'aperçoive une source d'eau, une fontaine formant des bulles à la surface. C'était tellement beau que je les ai alors prises en photo. Observant les premières pousses de fleurs agrémentées de fines feuilles, je pris une photo. Puis cet arbre torsadé dont je parlais, peinant à croître, encore une photo. Je m'en inspirais ensuite. Je photographiais même dans ma cuisine face à une omelette dans une poêle. Oui, je m'en souviens bien. Fasciné en la voyant gonfler, je courus chercher mon appareil. Cette masse volumineuse représentait l'image d'un abcès, à percer, pour en extraire le pus, comme l'accumulation que l'on peut ressentir en soi dont il faut percer l'abcès pour extérioriser la parole. Pouvoir exprimer à travers toutes ces expériences des poèmes et des histoires, dont la première fut inspirée de ce bouillonnement sur lequel ma voix venait se poser. Ma liberté d'expression était observée, mais je n'en ressentais aucune gêne. Je n'évoluais pas dans une démarche où le fait d'être sourde m'aurait empêché d'utiliser ma voix. On aurait pu te demander de te taire. Pour moi, c'était l'inverse. Cela rendait mon expression plus libre. C'est d'ailleurs parce que tu utilisais ta voix qu'Alfredo nous a proposé de tous ensemble nous asseoir en cercle sur un sol recouvert de terre et de créer en utilisant nos voix. Je pense que cette idée venait certainement de ta manière de faire. Alors nous tracions sur cette terre une géométrie spatiale en fonction de nos intonations et rythmes de voix. Il faut savoir que les sourds émettent des sons issus de la respiration que l'on n'entend pas nous-mêmes, mais qui est bien présente. Il m'est souvent arrivé en jouant au théâtre qu'on me le fasse remarquer. Sans le vouloir, ma voix était bien là. Je me souviens donc de ce cercle où chacun d'entre nous travaillait sa voix, sur des pas de chevaux par exemple. L'intensité vocale différait entre nous tous. Le public entendait cette diversité vocale. Alors que cette perception leur semblait bizarre ou cacophonique, elle les remplissait d'émotions, d'une manière originale. Ces sensations pouvaient également être douloureuses pour certains. Oui, tout à fait. J'ai envie de revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure à propos du poème que tu as écrit. Tu l'as créé en français écrit, car il faut dire que tu as un très bon niveau de français. Parmi nous, tu étais la meilleure et la seule à avoir un si bon niveau. Non, je n'étais pas la seule à avoir un bon niveau. Effectivement, il y avait aussi Evelyne et Brigitte, vous étiez trois. Tu avais donc écrit ce poème. Et ce qui me sembla alors étrange fut ta proposition délicate que je le traduise en langue des signes, pensant que j'étais suffisamment à l'aise, alors qu'en fait pas du tout, je me demandais sincèrement pourquoi moi, sachant que mon niveau de français n'était pas à la hauteur. C'est malgré tout à moi que tu le proposais. C'était important pour moi. Pourtant, au ministère, j'avais régulièrement besoin de ton aide pour corriger mes écrits. Tu t'en souviens ? Eh oui. Il s'agissait bien sûr de documents administratifs, mais tout de même. Ta proposition m'avait réellement interloqué. Il est vrai que j'avais un bon niveau de français, mais toi, tu étais si forte en langue des signes. Sauf que je ne pouvais pas le traduire, c'était impossible. Mais pour moi, la lecture n'était pas essentielle. Contrairement à la langue des signes. C'est bien ce qui était drôle à mes yeux. De mon point de vue, la langue des signes pouvait puiser une force au-delà des mots. Pour le français, les mots sont une chose, mais c'est en langue des signes que la richesse du texte pouvait se révéler. Alors c'est toi que j'ai choisi, par admiration de ta langue. Et en occultant ton niveau de français. Je valorisais ainsi notre langue et mon identité de sourde. Plus tard, j'ai créé Fleurs, vraiment au hasard, juste fascinée par les fleurs. je ressentais toujours beaucoup de peine de les voir couper. Ces plantes vivantes ne devaient pas mourir ainsi, même pour ce magnifique bouquet que l'on m'avait offert un jour et dont je ne connaissais pas l'origine pour pouvoir les retrouver. Enfin, un jour, que nous travaillions avec Alfredo sur le thème de la fleur, sans grande inspiration, je me mis à épeler ce mot en dactylologie. Sans savoir ce que j'étais en train de créer, j'ai écrit autour du mot fleur. Je les voyais roses, sans que ce ne soit des roses. C'est ma couleur préférée de fleurs. J'aime le rose. Mon poème aboutit. J'y lisais simplement mon rapport aux fleurs. Quelques années plus tard, je travaillais sur la poésie. Au château royal de Beaumont, dans l'Oise. Avec une équipe de sourds. Lévente Bescardès, Laurent Vallot et Isabelle Voiseux. Nous travaillions ensemble sur mon poème « Fleurs » afin d'analyser ma création. Je n'imaginais pas ce qui pourrait en ressortir et je fus étonnée de découvrir la correspondance avec la fragilité de la culture sourde, l'interdiction subie par les sourds, tous les écueils de nos vies, ces entraves répétées telles l'herbe coupée sous le pied. Nous devions continuer à combattre ces offenses pour nous relever à tout jamais. J'avais donc écrit ce poème sur la culture sourde sans même le voir. Cette comparaison m'a paru alors formidable. Relire ce texte et l'interpréter, en observant ce parallèle entre les fleurs et la culture sourde, révélait cette analogie. Tu pourrais nous signer ce poème?
Oui, si tu veux.
C'est tellement beau. J'essaye de me remémorer l'amorce de ton poème. F-L-E-U-R, avec le R qui fane. À l'époque, nous avions cette liberté d'épeler en dactylologie pour créer en poésie. C'était tout à fait possible. Nous étions vraiment libres. Alors que de nos jours, ce serait impossible. La dactylologie serait bannie puisqu'elle est issue du français. Les signes doivent maintenant être uniquement iconiques. C'est quand même drôle, alors qu'il s'agit justement de poésie, et donc de liberté d'expression. Les sources d'inspiration pour l'expression artistique peuvent être très variées, comme par exemple la contemplation de notre environnement, de la nature, ou même une souffrance intime à évacuer. Par ailleurs, le rythme peut également inspirer, comme avec ces courbes réalisées sur ces bandes de papier. La trace d'une forme d'expression personnelle permet d'en extraire une matière, dans ce cas observable, puis reprise par un autre en langue des signes. Ce sont ces échanges de matière qui permettent d'approfondir les processus de création, dont la dactylologie peut faire partie, comme tout autre élément de composition. J'ai joué dans la pièce Les Pierres, dirigée par Thierry Roisin, avec Monica Fleury, Léven Bescardès et Alfredo Corrado. Thierry Roisin souhaitait que nous mettions de la poésie dans cette pièce, globalement écrite dans un style poétique. Monica et moi signons ces parties poétiques comme voulu. Il m'interpella pour me demander si j'avais créé des poèmes, mais je lui répondis que j'arrêtais, car j'avais déjà réalisé beaucoup d'adaptations et que cette pièce me semblait trop complexe à adapter pour le public sourd. J'eus alors une idée en voyant sa déception. Même si son souhait me déplaisait et que je ne savais pas comment signer cela, je me décidai à lui montrer mon poème, Aspiration, en lui disant que c'était le seul. Les autres n'étant pas adaptés à cette pièce, je lui proposai de le lire. Il le trouva parfait, alors je pris peur. Je me trouvais tellement bête de ne pas avoir réfléchi avant d'agir. Je ne saurais pas l'interpréter en signant. Mais il me répondit que si, je réussirais à le jouer sur scène. Je ne l'avais jamais signé, je n'étais pas sûre d'y arriver. J'aurais mieux fait de me taire. J'essayais finalement de lui en proposer d'autres, mais maintenant il voulait celui-là. Je l'ai donc lu et relu, puis je me suis entraînée, d'abord en français signé, mais c'était trop laid. Alors je me suis souvenue des conseils d'Alfredo, pour me concentrer sur le sens. Jusqu'au jour où, en jouant avec Monica, assise sur ma chaise, sur scène, j'ai brillamment signé ce poème en entier, comme ça, tout d'un coup. Il fallait que je joue pour pouvoir le faire. Les jours précédents, pendant les répétitions, j'avais la hantise de ce moment, qui heureusement n'arrivait pas. Je ne me sentais pas prête. Puis, de répétition en répétition, ce jour arriva. J'étais tranquillement installée. Ce n'était plus à mon tour de jouer. Je me suis posée ainsi en arrière. Et sans penser à rien, j'ai observé autour de moi. Quand tu écrivais, étais-tu d'abord inspiré plutôt de mots ou d'images? Comment les transposais-tu ensuite en français? Je dirais plutôt par des mots. Toujours? Tu avais ces mots en tête et ensuite, tu les annotais directement à l'écrit? Je me remets en situation. Une fois inspiré, je dessinais, puis j'écrivais ces phrases. En fait, je m'aidais de la langue des signes pour écrire ces phrases. Je signais en premier, c'est vrai. Je commençais par signer mes idées ainsi au-dessus de ma tête. Puis les phrases se construisaient, en parallèle dans mon esprit, sans forcément passer par le dessin. C'est bien ça, je signais en premier. Je m'exprimais en signes, et cela me donnait les phrases à écrire, voilà. Merci maman. Par contre, pourquoi, alors que je suis née sourde, je ne créais pas directement dans ma langue? Tous autour de moi me racontaient leurs histoires identiques à la mienne, tous ces problèmes, que j'écoutais et écrivais. J'écrivais ces situations. mais certains récits inédits m'inspiraient plus en langue des signes, alors je les écrivais ensuite. Cela dépendait, je pouvais suivre les deux façons de faire. Chaque adaptation était différente. Comment le public sourd a réagi à la forme figée de ton visage? Eh bien, je ne crois pas qu'il l'ait remarqué. C'est incroyable. C'est étonnant. Je jouais en effet le visage figé, mais on observait surtout mes signes. Comme si les expressions du visage, on s'en fichait. On écoutait surtout les propos. Le public suivait les dialogues et comprenait même sans expression faciale. C'est marrant parce que nous avons toutes les deux vécu cette situation aux antipodes. Au même moment que toi, un réalisateur me demanda de diriger un chant-signe pour un titre de Florent Pagny, Savoir aimer. J'ai accepté cette proposition, j'ai travaillé sur la traduction des paroles et s'en aller à une inconnue qui passe. Cette longue traduction aboutie, je me suis filmée pour fournir la cassette vidéo en langue des signes correcte. J'ai ensuite rencontré Florent Pagny, accompagné du réalisateur. Je lui ai montré comment faire correctement chaque signe. Nous avons répété ensemble, aimer et s'en aller. Je corrigeais le ton, le rythme et l'amplitude qu'il donnait au mouvement. Je l'ai ainsi longuement dirigé pour retrouver l'esthétisme du chant. C'est alors que le réalisateur intervint pour nous demander d'ôter les expressions du visage. J'étais affolée en imaginant la réaction de la communauté sourde. Cela me semblait impossible. Pendant nos débats, je défendais la place de ces expressions faciales parmi les paramètres grammaticaux essentiels. C'était inconcevable à mes yeux. À bout d'arguments, j'ai annoncé que je préférais me retirer du projet plutôt qu'essuyer les critiques. Je savais que mon point de vue n'était pas du tout ridicule. À force de tergiversation, je fis une proposition. Soit je me retirais, soit j'organisais une captation vidéo pour exprimer mon opinion. Par chance, je travaillais justement à l'émission « L'œil et la main » comme rédactrice en chef. J'ai donc proposé un making-of du clip. Une bonne preuve de ton travail. Exactement. On voyait ainsi comment je le coachais, préparais et le faisais répéter à son domicile, ainsi que ma méthode de traduction et les étapes de schématisation. On montrait comment j'avais abouti à ma traduction et comment il avait pu se l'approprier, etc. Quant aux expressions du visage, j'expliquais le contexte de cette omission volontaire en notifiant que j'avais bien souligné leur importance pour les sourds. Tout mon argumentaire serait donc diffusé, alors je me suis efforcée à continuer de diriger ce chant-signe sans expression faciale. Finalement, le montage réalisé, ce clip fut vraiment beau. Ce visage figé était éclairé d'une ampoule puissante à l'écran, apportant une esthétique supplémentaire. Diffusé, ce clip a reçu le premier prix des Victoires de la musique. Ce fut le meilleur premier prix dès l'ouverture de la cérémonie. Or, dès le lendemain, cela provoqua un cataclysme au sein de la communauté sourde. Quel ridicule ! Lors d'une interview, j'ai ensuite expliqué qu'effectivement, cela avait été un choc pour Florent Pagny qui avait eu confiance en mon travail et qui voyait son image atteinte par la médiatisation de ses critiques. Pour répondre à l'incompréhension face à ces réactions, j'ai expliqué que la communauté sourde acceptait mal qu'un entendant signe ainsi, figé. C'était simplement impossible, contrairement à toi dans Antigone. Vous étiez tous des acteurs sourds. Ce n'était ni grave ni inacceptable que vos visages soient figés. Et oui, on sait pourquoi. C'était inacceptable du fait d'être un entendant et acceptable pour une sourde comme toi. Je n'étais pas dupe, je savais comment diriger un entendant en tant que sourde, autrement que toi dirigé par un entendant. Et j'ai su l'expliquer aux médias. Cela a réellement rassuré Florent Pagny qui m'a sincèrement remercié. Oui, j'avais suivi tout cela. Quelle rigidité de la part de la communauté sourde! Le chemin était encore bien long. Il ne voyait pas la beauté de ses paroles, ni de la traduction en chansigne. Il l'acceptait difficilement. Cela fut très dur pour moi de continuer en parallèle à diffuser et transmettre pour permettre un changement de représentation, sur le plan linguistique notamment, auprès des sourds. Mais ces changements prennent du temps. Oui, je me souviens de tout cela. Même encore de nos jours, tu te rends compte? Tout à fait. Et je me souviens de cette émission sur Florent Pagny, signant Savoir aimer. Je me suis rendu compte que Thierry Roizin avait eu raison. C'était bien vrai, même si l'on observe que cela ne va pas non plus à tous les visages. Mais en ce qui concerne Savoir aimer, le chanteur avait un style. Son expression corporelle remplaçait celle du visage. Il n'était pas totalement rigide, et son regard accompagnait l'ensemble. Le résultat était esthétique. Ce clip me faisait penser à Antigone, alors je comparais ces deux propositions. Après l'expérience d'Antigone, j'attendais de voir le résultat, et je le trouvais vraiment pas si mal, et même assez beau. Mais pour les sourds, c'était difficile car ils étaient habitués à une langue de communication utilisant toute l'expressivité du corps et du visage. Or, sur scène, il s'agit d'une expression artistique, donc il faut accorder une place à chacune de ces formes linguistiques. Ces visages figés leur paraissaient trop originaux. Je l'avais défendu moi-même avec l'équipe d'Antigone. Confronté à la décision, je pensais que ce ne serait pas possible, alors qu'en fait, ce fut une réussite. De nombreux éléments interfèrent et apportent un sens différent à chaque situation, sans oublier la mentalité sourde. Comme je suis une artiste sourde, on me voit différemment. C'est certainement avec les plus jeunes générations que ce sera possible. Si on les accompagne au théâtre, voir de la magie ou d'autres spectacles, pas à pas, les enfants apprennent à discerner cette diversité artistique, grâce à des ateliers et des cours en langue des signes, dans un bain linguistique et artistique. On en était très loin à mon époque. Ta génération avait déjà fait un pas. Mais la mienne, pas du tout, alors que nous ne sommes pas si éloignés, nous devons encore nous battre pour cela, même si j'ai déjà fait ma part, je peux à présent me reposer dans un siège à bascule? Non, cela ne changera jamais. Effectivement, ce changement n'arrivera jamais, car il s'agit d'une langue minoritaire, et donc fragile, pour laquelle notre méfiance perdurera. Surtout si on ajoute à cela les difficultés actuelles sur le plan social et scolaire. Nous sommes divisés. Les internats qui nous permettaient la transmission de notre patrimoine culturel disparaissent progressivement, suite à leur fermeture. La systématisation de l'intégration individuelle et de l'implantation cochléaire multiplie l'angoisse des sourds, et donc leur vigilance. Dans ce contexte, toute tentative de modification de notre langue, pouvant amener à sa détérioration, sa défense paraît légitime. Ce degré de gravité doit pourtant être contrebalancé par un recul nécessaire afin de préserver la création artistique, car sans culture nous serions fichus. Il faut dire qu'actuellement on assiste de plus en plus dans les théâtres à des traductions plutôt qu'à des créations. Les temps ont changé, c'est différent. Maintenant, à l'IVT, par exemple, ce n'est plus comme avant. Cela se développe pourtant à Toulouse, et c'est tant mieux, il faut l'encourager. Il faut encourager cette créativité. Elle représente le droit à la création libre, dans un style artistique propre à chacun. On en voit l'émergence à Lyon. Voilà, à Lyon, notamment, tout à fait. Quelle bonne chose !